une histoire particulière. 1850, Californie. La fièvre de l'or fait rage. Une jeune femme, partie de Savoie, tente sa chance aux États-Unis. Marie Suisse a 26 ans. Le 18 mai 1850, elle embarque sur un trois-mâts, le Ferrière, et le bateau vogue jusqu'à San Francisco. Plus tard, des photos la montrent armée d'une pioche et d'une pelle, comme dans les westerns. Elle se mêle aux hommes et devient prospectrice d'or. Mais qui était cette femme de caractère, célibataire et bâtie comme un marin? Elle boit, fume, crache, jure et s'impose comme la première femme à porter le pantalon.
On l'appelait Marie Pantalon. Philippe Roisès, Séverine Cassard. Second épisode, Jamais sans mon pantalon.
Marie, elle jurait, elle fumait, elle chiquait, elle crachait, elle levait le coude. Et elle jouait aux cartes aussi bien que les hommes. Elle ne voulait pas particulièrement être aimable, charmante et chouchoutée. Juste être elle-même et respectée. Voilà déjà 15 ans qu'elle s'était établie à Jackson et qu'elle vivait de la prospection d'or. Certains de ses frères sont venus un temps la rejoindre et tenter eux aussi leur chance. Elle voulait également faire venir ses sœurs qui lui manquaient.
On ne lui connaît aucune relation. On n'a aucun document qui montre qu'elle était en couple, un moment ou un autre. On n'a aucun document qui montre qu'elle aurait été particulièrement proche. Non, on pense qu'elle est restée seule toute sa vie.
Stéphane Chalabi, président de l'association des Amis du Val-de-Tône.
Elle a eu beaucoup d'affection pour son petit frère. Son petit frère à qui elle a demandé de venir et qu'elle a, avec qui elle était pendant plusieurs années. Malheureusement, bon, ce petit frère va faire de mauvaises affaires et puis se faire beaucoup d'ennemis. Donc après, il va rentrer avec de l'argent, la laissant toute seule. Après le départ du petit frère, elle aimerait bien faire venir deux sœurs. Il est question qu'elles viennent, puis tout compte fait, elles ne sont jamais venues.
Ce n'était pas quelqu'un de solitaire, mais elle se sentait beaucoup plus à l'aise dans un milieu où elle était un homme parmi les hommes, en quelque sorte.
Claudine Chalmer, chercheuse, spécialiste des migrations européennes vers la Californie.
Marie, elle s'est reconstruite loin des limites de son village savoyard, loin des abus pernicieux de la vie qu'elle a pu connaître à Paris. Elle a pu se reconstruire une vie de groupe très masculine, qui ressemble un peu à celle qu'elle avait auprès de ses frères, dans un sens, tout en jouissant d'un statut à part en tant que femme. Elle est allée de réussite en réussite dans divers domaines, et elle était d'ailleurs très fière de sa réussite, puisqu'elle avait avec elle un article qui célébrait sa victoire sur les Canadiens qui avaient voulu lui voler son or dans les mines. Elle portait cet article de journal dans sa poche avec elle. C'est une façon d'entrer dans la légende, de broder aussi sur son histoire, puisqu'elle dit également qu'elle était arrivée en Californie à l'âge de 16 ans.
Elle dit elle-même à la fin de la vie qu'elle a évidemment extrait une quantité d'or astronomique, elle prétend qu'elle avait un mètre cube d'or, c'est sûrement exagéré. Donc elle devient assez riche, elle s'établit, elle achète des magasins, elle installe une petite ferme. Dans son exploitation, elle se lance dans les verres à soie, elle se lance dans le commerce de vin, et c'est quand même surtout ça qui va l'occuper dans la dernière partie de sa vie. Elle a pour ça deux magasins et on retrouve les publicités de ses productions, donc des liqueurs ou d'autres vins. Et c'est intéressant parce qu'elle se présente comme Marie Pantalon ou Marie Suisse Pantalon. Quelquefois même Miss Pants. Donc, elle a une vraie célébrité et elle en joue pour vendre ses produits.
Mrs. Pence, ça se traduit par Madame Frock. Selon la clientèle à laquelle Marie s'adressait et selon le degré de respectabilité qu'elle voulait se donner, elle utilisait des noms différents. Elle s'est même vieillie pour gagner en honorabilité. Elle avait le sens du marketing, comme vous dites aujourd'hui. C'était une femme d'affaires avisée. Son ranch, près de Jackson, elle l'a baptisé French Garden, le jardin français. Elle y a planté 3000 mûriers pour obtenir des vers à soie et se lancer dans ce commerce. Et elle possédait 30 000 pieds de vigne, près de 50 000 litres de vin et 2200 litres d'eau de vie par an que ça donnait. Elle a aussi ouvert une boutique de vin et de spiritueux à Virginia City, dans le Nevada, où elle employait 5 personnes.
Eric Costa, géologiste, producteur de vin et historien de la ruée vers l'or.
Les mineurs avaient besoin de certains services et commerces. Donc il s'est développé rapidement des activités répondant aux besoins de nourriture, de vin, de spiritueux. Tout était produit et commercialisé pour répondre aux besoins des chercheurs d'or. C'est donc bien la ruée vers l'or qui est à l'origine du développement économique de cette époque. Fondamentalement, c'était une pionnière de la région. Une femme entrepreneuse en avance sur son temps, possédant des affaires réservées aux hommes à cette époque. Et puis elle est parmi les premières, si ce n'est la première propriétaire de vignobles, productrice de vin et agricultrice. Tout cela n'a pas été calculé. Les circonstances ont un peu dicté la manière dont ça s'est passé. Je ne pense pas qu'elle avait prévu tout ça. André Douay, son partenaire dans les affaires, a acheté le ranch. Il l'a acheté à un petit groupe de 4 ou 5 agriculteurs français qui avaient fondé ce ranch dans les premiers jours de la ruée vers l'or, probablement vers 1852. Il leur a acheté en 1864 et il y avait déjà apparemment une culture de la vigne. Le bâtiment et certains équipements était déjà présent. La préoccupation de Douay pour la vigne a grandi. Et un an ou deux ans après l'acquisition, la production de vin avait commencé. Ça indique clairement qu'il y avait déjà des vignes. Et au fil des années, les variétés de cépages ont été modifiées. Au début, quand ils ont commencé, il y avait un cépage appelé en Californie le cépage de la mission. C'est une variété de raisin que les missionnaires catholiques avaient implanté plus tôt. C'était le seul vin disponible dans les premiers temps. Mais ensuite, d'autres variétés ont été introduites en Californie. D'après les indices que j'ai trouvés, Marie Suisse a développé les cépages Zinfandel, Carignan et Mourvèdre.
Il y avait des dizaines de milliers de mineurs qui ne demandaient qu'à s'amuser. Réinvestir l'argent des mines dans l'alcool, c'était une riche idée. Et ça a marché. Bon, les premiers temps, elle tâtonnait Marie avec ses vignes. Mais c'est finalement devenu une industrie florissante jusqu'à aujourd'hui. Le cépage Zinfandel est même la variété la plus cultivée en Californie de nos jours. Une partie du vin était vendue sur place. Mais l'essentiel partait dans les grandes villes du Nevada, où avait démarré une nouvelle ruée. Mais vers l'argent, cette fois. Marie a habité le ranch durant 6 ans. Et puis, comme ses sœurs ne venaient toujours pas, elle a fini par s'y sentir seule. Et elle a déménagé à Virginia City, où elle tenait justement une de ses boutiques.
Au début, ce n'était pas facile. Même obtenir la quantité d'eau nécessaire, juste des choses très basiques de la vie quotidienne, n'était pas facile. J'imagine donc que c'était extrêmement compliqué. Mais concernant les sols ou le climat, elle n'a rencontré aucune difficulté. Je pense que le plus gros problème était de comprendre quels cépages il fallait utiliser. Ce qu'elle a appris au fur et à mesure.
Alors là, sous les yeux, j'ai une photo du ranch de Marie-Suise, et on voit les bâtiments en assez mauvais état. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut plus ou moins deviner un soubassement en pierre. Et là encore, je pense que c'est quelque chose qu'elle a tiré de son passé taonin. Toutes les maisons ici sont en bois, en madrier de bois, on dit des carrés, mais avec soubassement en pierre. Elle a ramené pas mal de choses de Savoie en Californie. La photo est ancienne, mais c'est, paraît-il, la seule bâtisse qui a tenu jusqu'à aujourd'hui, justement grâce à ce soubassement en pierre. Ces soubassements qu'on voit jamais dans les films western, hein, mais qu'elle avait fait, sa marque de fabrique. Ça, c'est pas mal.
Aujourd'hui, il ne reste plus de vignes. Il y a des rosiers sauvages un peu partout. Et le bâtiment lui-même est à l'abandon. La cave est toujours là, quelques outils aussi, et on trouve des traces d'anciennes terrasses viticoles sur la colline. Mais grosso modo, on peut parler de retour à la nature.
Marie a eu au moins 3 fois des problèmes concernant sa tenue vestimentaire. À 3 reprises, on lui a reproché donc d'être en pantalon. Attention, ces reproches, c'est pas dans les années 50, c'est pas au début de la découverte de l'or. À ce moment-là, il y a une grande liberté. C'est au moment où les sociétés s'installent, où les normes se réétablissent, où il y a des pressions qui reviennent. C'est vraiment à ce moment-là qu'elle a 3 procès de suite. Où on lui demandait évidemment d'abandonner les pantalons.
Dans les régions minières du comté d'Amador, apparemment elle était totalement acceptée. Par contre, elle a été arrêtée à San Francisco, dans un saloon de Dupont Street, pour avoir porté des vêtements masculins.
À Jackson, on avait pris en considération le métier de Marie et on lui avait délivré un permis qui l'autorisait à déroger à la loi californienne, qui interdisait le port du pantalon aux femmes. Mais à San Francisco, en 1871, elle a été poursuivie en justice, pour travestissement, à cause de son pantalon. Elle avait l'air de s'amuser, mais quelque chose dans ses manières ne ressemblait pas à celle d'un homme, ce qui a conduit à son arrestation. Ça, c'est ce qu'un journal a rapporté. Elle a également été arrêtée à Virginia City. Elle a perdu un procès, elle a payé l'amende, mais elle a signé les papiers officiels Marie-Suise Pantalon. À un autre procès, à la barre, elle a expliqué qu'elle travaillait comme un homme depuis près de 20 ans. Elle a cité la France, où les femmes avaient la liberté de s'habiller en homme depuis 1800, à condition d'en demander l'autorisation au préfet. Une association de femmes a pris la défense de Marie, et l'affaire faisant du bruit dans les journaux, elle a gagné.
Et puis, à Virginia City, elle a demandé un permis spécial pour ouvrir une affaire et porter des vêtements masculins. Elle a fini par l'obtenir et n'a plus eu de problème là non plus. Donc c'était vraiment à San Francisco qu'elle a eu le plus de soucis. Dans les villes minières, moins sophistiquées pourrait-on dire, la mentalité était plutôt chacun vit sa vie et on laisse les autres vivre la leur.
Marie, elle a toujours gagné. Elle a surmonté tous les obstacles. Ses malheurs parisiens, un long voyage, les Canadiens dans la mine, la justice. Elle pouvait tout se permettre. En 1869, elle a signé une pétition pour l'amélioration de l'adduction d'eau sur les exploitations, à une époque où seuls les hommes étaient autorisés à le faire. On la présentait déjà comme la championne des revendications des droits des femmes en Californie. Mais il faudra encore attendre plus de 20 ans pour que les femmes obtiennent le droit de vote dans 4 États de l'Ouest.
Troisième document, une pétition. Le nom qui est le plus grand, le mieux écrit, le plus imposant, c'est quand même Marie Suisse Pantalon. Donc, même avec sa signature, c'est la seule chose qu'on a d'un peu personnel d'elle. Hein. Cette signature, ça remplace un peu un portrait. On voit qu'elle était assez décidée, assez sûre d'elle, assez engagée. Et on voit qu'elle s'est emparée de ce nom, Pantalon, qu'elle le rajoute à son nom et son prénom, Marie Suisse Pantalon. Le personnage de Marie Pantalon a été un peu un exemple hein, pour des femmes qui luttaient pour leurs droits. On a un exemple dans la presse de revendication de femmes en 1870, qui la prennent en quelque sorte pour modèle. Et un an et demi, deux ans après sa mort, on a comme ça un témoignage, un article dans un journal local qui dit que la défunte Marie Suisse Pantalon, qui est morte depuis un ou deux ans, a été la championne des droits des femmes sur la côte pacifique. C'est aussi le contexte, c'est le pays de migration, c'est la recherche de l'or, c'est un nouveau pays, c'est un peu ce contexte-là qui fait que les femmes ont eu peut-être un petit peu plus de moyens pour s'exprimer, pour revendiquer. Les revendications des femmes ont été plus écoutées sur la côte ouest que sur la côte est.
C'est toujours très utile d'avoir un modèle dans ce genre de bataille. Mais je ne connais aucune citation, aucun événement qui puisse suggérer que de son vivant, elle participait à cette grande opération de liberté des femmes. Marie Suisse, Marie Pantalon, était une individualiste qui était fière de faire son propre chemin, de s'être taillée sa propre fortune et sa propre légende. Et je ne pense pas qu'elle ait vraiment beaucoup pensé à toute la politique qui se développait autour d'elle pour la liberté des femmes.
J'ai plutôt l'impression qu'elle avait une forte personnalité, mais plutôt tournée vers sa personne. J'ai l'impression qu'elle utilise ça. Après, je pense aussi que son parcours personnel et ses difficultés, ses malheurs lui ont quand même ont sûrement fait prendre conscience de ces terribles conditions féminines. Mais de là à ce qu'elle veuille animer ce combat, j'en suis pas du tout sûr. Moi, je crois que le risque, c'est de faire calquer, de lui faire mener des combats qu'elle voulait pas mener, et puis de reproduire des préoccupations d'aujourd'hui à ce moment-là.
À partir de 1859, ils étaient nombreux, ceux qui ont investi dans les mines du Comstock Lode, un soi-disant filon d'or et d'argent dans le Nevada. Sauf que désormais, il fallait avoir les reins solides, dépenser énormément. Beaucoup s'y sont frottés, mais peu s'en sont relevés. Les nouvelles compagnies minières pouvaient se le permettre, pas les pionniers artisans comme Marie. Mais elle a foncé. L'argent a perdu de sa valeur, la bourse elle n'y connaissait rien, et elle a perdu beaucoup.
Parfois, les pionniers qui réussissaient, comme Marie Suisse, ces pionniers, ces pionnières, ont cru que leur chance et leur opportunité, leur affranchissement, allaient continuer. Mais la société normale, disons, entre guillemets, commençait à se refaire autour d'eux. Et c'est donc un moment charnière dans leur vie. En fait, ils ont refusé de s'adapter aux nouvelles normes. Ils ont continué à prendre des risques, comme Marie a pris le risque d'investir dans le Comstock Lode, comme si l'environnement financier était toujours celui des premières années de la ruée vers l'or. Et elle a perdu une centaine de milliers de dollars. C'était un énorme morceau de sa fortune, de toute évidence.
Elle a toujours le rêve de l'or. Cependant, à partir des années 1880-90, elle est quand même bien plus pauvre qu'avant. C'est vrai qu'elle a fait de mauvais choix dans les prospections d'or. Elle a investi de l'argent dans des affaires qui marchaient pas. Mais elle a aussi spéculé. une espèce de fièvre de l'or qui devient une fièvre boursière. Et c'est comme ça, paraît-il, qu'elle a perdu une grosse partie de sa fortune.
Et puis après les pertes qu'elle a subies dans ses investissements, elle a commencé à boire. Et donc ça a été une descente assez rapide dans la déchéance, ce qui est triste, mais c'est ce qui est arrivé à beaucoup des chercheurs d'or qui sont restés en Californie et qui n'ont pas su s'adapter.
L'esprit fatigué par le souci des affaires et le corps usé par le travail, Marie a senti peu à peu ses forces décliner. Malade, à bout d'énergie, elle s'est retirée dans son ranch dans l'espoir d'y rétablir sa santé. Un temps, elle y a réussi, et ses amis la croyaient tout à fait remise, quand, à la suite d'une rechute, elle s'est éteinte, pour ainsi dire en moins d'une semaine. Elle est morte pauvre, le 8 janvier 1892, à l'âge de 67 ans, d'une pneumonie, dans son ranch, dont André Douai devint le propriétaire. Les avis de décès ont parlé d'une femme remarquable, et la presse locale lui a rendu hommage. Elle n'est jamais revenue dans sa Savoie natale. Elle repose au cimetière catholique Saint-Patrick de Jackson, dans une tombe anonyme, dont on ne retrouve plus la trace. Parce que André Douai, il ne fit installer ni pierre tombale ni stèle. Moi, je sais exactement où elle est dans le cimetière. Parce que je suis enterré pas loin.
Elle était assez célèbre, les publicités le montrent, les témoignages qu'on a le montrent. Mais célèbre aussi, on le voit à sa mort, puisqu'il y a eu plusieurs articles très élogieux qui ont été publiés. Mais c'est une célébrité qui va très très vite disparaître. On est dans des sociétés qui bougent beaucoup, beaucoup de déplacements, beaucoup de changements. Et en fait, à partir du moment où elle n'a pas de descendance, où elle n'a pas de parents, où elle n'a pas de proches qui peuvent cultiver son souvenir, ça va très vite être oublié.
Cette injustice, elle fut réparée le 14 juillet 2004, lors du 150e anniversaire de la fondation du comté d'Amador, qui se trouvait également la date d'anniversaire de Marie. À 10h du matin, Américains et Savoyards ont inauguré une stèle funéraire avec l'inscription « Madame Pantalon, l'incomparable » et puis une plaque aussi. Les os de Marie sont restés en Californie, mais un peu de son esprit a continué de flotter grâce à Albert, son jeune frère. Lors des veillées, il la racontait, elle et la ruée vers l'or, les femmes, Jackson.
Alors là, on n'est pas du tout dans le secteur de Marie Pantalon. On est dans la rue où son frère s'est établi. Il revient en 1862 et en 1863, il achète un petit immeuble, le même jour où il se marie, un contrat de mariage, il l'achète à sa belle famille et il s'installe ici et il va y faire beaucoup de travaux. Et on a encore des traces de ces travaux. Cette maison avait été refaite quelques dizaines d'années avant. Elle était en partie pierre. Il achète cette maison qui va jusque-là, donc la partie bois, qui n'est pas très grande, pas très large, 5 mètres de façade, c'est vraiment petit. Et puisqu'il est menuisier, puisqu'il a de l'argent, puisqu'il est un peu négociant en bois, il décide de rajouter tout l'arrière, en structure plus légère, en bois. Et c'est là qu'on voit un petit peu ses rêves de grandeur. Il va y mettre de belles portes en noyer, des escaliers en noyer, du noyer un peu partout, et vous avez encore des portes qui datent de son époque. Là, c'est du noyer, les escaliers, et puis comme ça, jusqu'au sommet. Et il décide de doubler en quelque sorte la surface. Tout l'immeuble lui appartient. Donc Albert part en Californie, donc Albert est un petit peu plus jeune que Marie. Et ce petit frère décide d'aller en Californie en 1854. Donc il y va 4 ans après Marie, c'est pas très longtemps après, il y va pas tout seul, il y va aussi avec 2 autres frères, des aînés. Il s'installe, les 2 grands frères restent pas longtemps avec elle, on perd trace d'eux, mais le petit frère, lui, reste longtemps. Il reste pendant 8 ans. Il revient. Donc, il décide de revenir avec l'argent qu'il avait amassé. Et on a encore son établi, ses outils. C'est un peu touchant parce qu'on se dit qu'il a peut-être acheté tout ça avec un peu de l'argent qu'il avait ramené. On sait qu'il a ramené une balance pour peser l'or. On sait qu'il a ramené des pépites, puisqu'il y en a une qu'on a encore, et qui a été transmise depuis ses filles jusqu'à les descendants actuels, c'est-à-dire ses arrière-petites-nièces. Et il va être assez célèbre pour raconter ses souvenirs des Amériques. Malheureusement, on n'a aucun reste écrit de ses souvenirs. C'est bien, bien dommage. Parce que c'est lui qui faisait vivre un peu le personnage de Marie Pantalon, mais plutôt dans un cadre familial. On a quand même des échos comme quoi, dans les repas, on aimait bien l'inviter parce qu'il racontait ces histoires-là. Et puis ensuite, ça s'est perdu, malheureusement.
Aujourd'hui, il existe un vin californien, portant le nom de Suisse Vionnier Amador, en hommage à cette pionnière. Si vous pouvez débourser les 50 à 100 dollars que coûte cette bouteille, ou en voler une, buvez un verre à la santé de Marie.
C'était « On l'appelait Marie Pantalon » avec Stéphane Chalabi, Claudine Chalmer et Eric Costa. Traduction, Bertrand Richard avec la voix d'Olivier Martineau. Prise de son, Célim Guéribi, Audrey Guélil, Delphine Baudet et Jean-Louis Deloncle. Mixage, Éric Boisset. Merci aux archives départementales de Haute-Savoie, aux Amis du Val-de-Taune, à Kimberley Wooten et Suzanne Butrille. Attachée de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Réalisation, Séverine Cassard. Un documentaire de Philippe Roisès.